Arrêt numéro 1. Christophe Gay, responsable du service GEMAPI Grand Chambéry Cisalpes, explique les travaux en cours pour la requalification de l'Yerres.
Bon, alors, je vais vous parler un petit peu de la gestion des cours d'eau dans une zone urbaine qui est en fait l'agglomération de Chambéry. Alors, je vais commencer par un peu d'histoire. Alors, s'il y en a qui sont allergiques à l'histoire, je suis désolé, mais enfin, pour comprendre la situation dans laquelle on est et voir ce que l'on va faire, il faut connaître l'histoire. Donc, il faut savoir que nous sommes ici, si on va très très loin en arrière, dans un ancien lac qui a pris naissance à la fin de l'ère glaciaire, la dernière ère glaciaire du Vurme, il y a 20 000 ans. Ensuite, il y a une plaine qui s'est constituée par remblaiement, par matériaux détritiques, par les versants, etc. Et cette plaine, elle a été ensuite colonisée par l'homme qui s'y est installé et qui a voulu dompter un peu les éléments dans cette plaine, non seulement pour faire d'abord de l'agriculture et ensuite installation de zones habitées, de zones industrielles. Donc il a fallu déconnecter les cours d'eau de cette grande plaine puisqu'il s'est allé allègrement dans cette plaine à chaque grande crue, naturellement, mais ça, il n'en était plus question. Du coup, il a fallu les contraindre dans un espace, comme vous le voyez, qui est relativement réduit. Et donc, pour contraindre un cours d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des digues. On fait des digues. Donc là, vous en avez une ici, vous voyez très bien, là, dans la courbe. Il y en a d'autres qu'on voit encore mieux sur la laisse. Il y a des endroits où les digues ont disparu parce qu'on a remblayé derrière, donc finalement, on ne se rend plus compte, mais il y avait bien une digue à l'origine, mais elle n'y est plus, elle a disparu dans le paysage. Et donc, quand on arrive au 21e siècle, avec une agglomération qui s'est fortement développée, qui a fortement occupé son territoire, toujours ce même territoire que le cours d'eau veut regagner à chaque crue, et qu'on a des ouvrages qui sont très anciens, puisque les digues que vous voyez là, elles datent de l'époque sarde. Ces digues ne sont pas françaises. Elles ont été faites avant l'annexion. Et ensuite après, hein, bien sûr. Alors, en termes de gestion des cours d'eau, le territoire a dû s'organiser. Et c'est un petit peu un cas particulier, j'ai même envie de dire quasiment en France, puisqu'on a quand même un syndicat qui gérait les cours d'eau dans le bassin chambérien depuis Napoléon III, qui s'appelait le syndicat de l'Es et d'Hyères. C'était un syndicat fermé de propriétaires qui a servi notamment à ériger une grande partie des digues et à protéger la plaine, de la rendre cultivable, etc. Donc, on a des ouvrages qui sont très anciens, donc pas forcément en bon état, parce qu'ils n'ont pas été conçus, on va dire, dans les règles de l'art que l'on connaît maintenant. Ils n'ont pas été non plus entretenus, puisqu'il y a eu un abandon. Il y a eu une période où le syndicat de l'Essélière, en fait, existait sur le papier, mais n'avait plus aucune action, ne faisait plus rien. Et c'est là, c'est pendant cette période-là, que les digues ont été complètement colonisées par de la végétation, et notamment par le robinier faux acacia. Robinier faux acacia, qui est une espèce invasive, qui n'est pas une espèce locale, ce que tout le monde appelle l'acacia, il n'y en a pas d'acacia à l'état sauvage ici. Tout ce que vous voyez là, tous les rejets que vous voyez là, c'est du robinier, faux acacia. Et pourquoi il s'appelle robinier? Parce que c'est un végétal qui a été importé des États-Unis par Monsieur Robinier, ni plus ni moins, et qui a un grand pouvoir de colonisation, puisque c'est une légumineuse en fait cet arbre-là, il a, comme le trèfle, il a des nodules sur les racines qui lui permettent de capter l'azote atmosphérique. Donc ça veut dire qu'il cherche sa nourriture dans l'atmosphère et pas forcément dans le sol. Donc du coup, il peut pousser sur un caillou ou sur un sol très très pauvre. Tiens, une digue, ben, c'est un sol très très pauvre. Voilà. Donc, les digues se sont comme ça colonisées, végétalisées. Alors c'est vrai qu'avec nos yeux, on dit « Oh, c'est joli ça, ce cordon de végétal le long de la rivière ». Alors sauf qu'il y a déjà deux premiers problèmes. Le premier, c'est qu'on a une grande majorité de robiniers faux acacia, finalement, parce que c'est l'espèce pionnière qui a commencé à coloniser en premier. Et en plus de ça, ben pour les digues, c'est très mauvais, surtout des digues, vous voyez la largeur de l'ouvrage, vous imaginez, vous mettez un arbre dessus, si l'arbre tombe, ben la digue, elle part avec. Hein. Je ne vous parle pas de la présence des racines dans le sol qui favorisent l'écoulement de l'eau, ce qu'on appelle, nous, les renards hydrauliques, etc. Donc aujourd'hui, depuis, on va dire, ça fait maintenant une quinzaine d'années, que de nombreuses études sont menées sur les digues, parce qu'on sait beaucoup de choses sur les barrages. Les barrages, on les connaît, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle ces digues sèches. Parce que vous voyez, c'est des ouvrages qui sont tout le temps secs. Ils peuvent être secs pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, selon 100 ans, selon où ils sont situés. Par contre, pendant 2 jours, ils vont être mis en charge hydraulique. Est-ce qu'ils sont capables de la tenir, cette charge hydraulique? Voilà, donc, face à ce problème, on va dire très technique, hein, de contenance, on va dire, des crues dans un espace très restreint, alors qu'avant, le cours d'eau, il avait des kilomètres pour s'étendre, se pose la question de ce qu'il faut faire pour régler le problème. Évidemment, tout de suite derrière, découle une autre question, c'est, oui, mais la trame verte qui s'est installée, tout ce corridor écologique qui, aujourd'hui, en fin de compte, est quasiment le seul corridor continu que l'on a dans la traversée d'une agglomération. Si vous voulez chercher une forêt continue depuis le lac du Bourget jusqu'au centre de Chambéry, ben, il n'y a que la LES qui peut vous l'amener. Hein. Ce n'est pas la VRU ou autre chose qui va vous l'apporter. Donc comment est-ce qu'on peut traiter tous ces... Comment est-ce qu'on peut traiter tous ces éléments ensemble? Eh bien, les chantiers dont je vais vous parler maintenant ont justement eu à tâche d'essayer d'allier ces deux aspects-là. Alors là, je vais vous parler du chantier de Lierre qui, comme vous le voyez, démarre. Et ensuite, avec Luc Berthoud, on vous parlera du chantier de la Lèche qui a été achevé il y a 2-3 ans. Et comme ça, ça vous permettra d'illustrer ce que je vais vous dire maintenant. Donc, l'idée, on est d'accord, il faut tenir la crue centenale. Ça, de toute façon, parce que la solution, ce serait de dire on enlève les digues, on remet des arbres, on ne se pose pas de questions. Sauf qu'aujourd'hui, là, le cimetière et tout ce qu'il y a derrière, si on enlève la digue, c'est inondable à partir de la crue décennale. Alors déjà, est-ce que vous connaissez tous la définition des crues décennales, centenales? Alors voilà, donc une fois par siècle, c'est ce qu'on entend régulièrement. C'est pas faux une fois par siècle. Mais dit autrement, statistiquement, c'est une chance sur 100 de se produire chaque année. Bah, dit comme ça, c'est pas pareil. Hein. Parce qu'une chance sur 100, c'est pas beaucoup. Hein. On aimerait pouvoir avoir cette même probabilité de gain à l'euro million. Mais c'est pas le cas. C'est plutôt en centaines de millions des chances. Tous les ans, on a une chance sur 100, on prend un dé avec 100 faces. Il n'y a qu'une seule face 100. Il y a 10 faces 10, etc. On jette le dé. S'il tombe sur la face 100, on a la crue centenale. Voilà. Là, si on enlève la digue, Lierre déborde de son lit à la crue décennale. Une chance sur 10 chaque année. Donc on en a besoin de la digue. Hein. On est obligé de la garder. Donc, comment est-ce qu'ici, on va essayer, parce que vous le voyez bien, la digue, elle est au ras du cours d'eau. Donc là, on ne peut pas matcher une trame verte, en tout cas rive gauche. Donc la rive gauche est celle qui est à gauche quand on le met dans le sens de l'écoulement. Donc c'est à droite pour nous. Donc la rive gauche, on a une digue. Dans les règles de l'art, on ne peut pas conserver une digue comme celle-là de la végétation dessus. Donc nous, on met en place un entretien qui vise à respecter cette règle. Mais du coup, ben, la trame verte, rive gauche, elle en prend un coup. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de faire coïncider une protection avec la réinstallation d'un corridor écologique qui soit correct? Bah, tout simplement, on va enlever le seuil que vous voyez ici. Alors, d'aucuns me disent, ah oui, mais alors vous allez creuser le lit de la rivière, vous allez approfondir le lit de la rivière. Et la réponse est non, on va juste ramener le lit de la rivière où il était naturellement. Parce que ce qui n'est pas naturel là, c'est les marches d'escalier en béton. Hein. Donc on ne va pas creuser le lit, on va redonner à Lierre un profil en long, qui s'approche de l'aspect naturel de ce que le cours d'eau avait avant que l'homme ne vienne intervenir. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a fait ces marches d'escalier? Alors, ces marches d'escalier, elles ont beaucoup d'utilité, figurez-vous, parce que dessous se cache le réseau d'eau usée de tout le centre-ville de Chambéry qui part à la station d'épuration, et il y a 15 câbles HTA, enfin haute tension, qui sont aussi dans le seuil. Alors, le réseau d'eau usée, Grand Chambéry l'a dévoyé déjà il y a 4 ans et il l'a fait passer après les barrières de chantier que vous voyez là-bas. Là, ils les ont fait passer en gravitaire donc, hein, pour éviter d'avoir des siphons, etc. Et à la côte future de notre lit. Ça a été fait pour le projet. Il y a déjà 4 ans, il y a déjà un chantier ici en prévision de la suppression du seuil. Et là, le chantier que vous avez sous les yeux, c'est Enedis qui est en train de dévoyer tous ses câbles. Donc il les dévoie là où vous avez la saignée là, qui est toute récente. Donc en amont du seuil et à la côte Z, donc de fond, qui correspond à l'abaissement du lit. Donc là, le lit, on va l'abaisser d'un mètre. On va abaisser le lit d'un mètre. On va recréer une rampe. Parce que le seuil en entier, il doit faire pas loin de 2,50 m. Donc si on avait abaissé le seuil complètement, ça aurait été un travail très très lourd de soutènement des berges. Vous voyez ici, alors là vous ne voyez pas, mais là vous avez un mur en enrochement qui est subvertical. Donc là, vous voyez, pour installer une trame verte, c'est pas terrible. Subvertical, c'est quasi vertical. Donc pour éviter d'avoir à faire ça tout le long, on a trouvé la bonne proportion entre abaissement, talus suffisamment adouci pour installer une trame verte, et gabarit suffisant pour faire passer la crue centenale. Donc on abaisse d'un mètre. La piste cyclable est complètement déconstruite. La digue, alors du coup, comme on abaisse le fond du lit, on augmente la section. On abaisse la ligne d'eau, on fait passer ce qui nous manquait en crue centenale, mais en plus, on abaisse un peu la ligne d'eau centenale. Du coup, on réduit le besoin de digue. Donc vous voyez, on est en digue jusqu'au pont là. On est en digue jusqu'au pont. À la fin du chantier, on sera en digue qu'à partir du virage. Du virage jusque-là, on n'aura plus besoin de digue. Donc la meilleure digue à gérer, c'est celle qui n'existe pas déjà, techniquement. Mais en plus de ça, ça veut dire que là, on va revégétaliser. Alors bien évidemment, on va regarder ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Hein. On ne va pas les planter un peu pliées sous le... Donc du coup, on va mettre la digue sous la piste cyclable, puisqu'aujourd'hui, la digue est à côté de la piste cyclable. Et en faisant ça, on va libérer 7 à 8 mètres, voire même un peu plus à certains endroits, d'espace. On va pouvoir réinstaller une trame verte, un corridor écologique qui sera durable puisqu'il n'aura aucune raison d'être mis en cause. En gros, on lui redonne son espace qu'il avait perdu par les aménagements successifs des siècles passés. Et donc cet espace-là, nous, l'objectif, c'est de réinstaller une berge de cours d'eau naturelle. On veut recréer ce qu'on appelle une ripisylve. La ripisylve, c'est ce que vous avez en rive droite, c'est la végétation bordière des cours d'eau. Ce sont des essences adaptées à la rivière, qui sont prévues pour vivre là, qui travaillent en interaction avec le cours d'eau. Quand vous vous promenez en rivière, vous voyez toujours des petits chevelus de radicelles qui sont là. Et bien, c'est les arbres qui sont là, qui viennent se nourrir dans l'eau, qui viennent prendre les matières organiques, etc. Tout ce qu'ils peuvent prendre, l'eau aussi, évidemment. Et donc l'idée, c'est pas de faire un parc urbain, c'est pas d'aller faire des cheminements, des bancs, des machins, non. C'est de recréer réellement une séquence naturelle de berges de rivière, avec un boisement tel qu'il aurait dû rester si jamais l'homme n'était jamais venu là. Et derrière, on aura la piste cyclable. Alors la piste cyclable, du coup, comme on la dégrave, qu'on la refait complètement, on en profite, aujourd'hui elle fait 3 mètres, on en profite pour la passer à 4 mètres de large. C'est-à-dire que le chantier, en fait, essaye, tant que faire se peut, sur tous les usages qui l'impactent, de ressortir en essayant d'améliorer la situation. Alors j'ai beaucoup parlé de trame verte, mais j'ai aussi parlé de trame bleue. Parce que le fond de la rivière, vous voyez, bon là il a été remanié par le chantier, mais enfin il était comme ça déjà avant. Hein. Si vous regardez un petit peu en amont, vous verrez c'est pareil. On a des cours d'eau en fait qui sont des trapèzes, quelque part, avec des écoulements qui sont devenus complètement inintéressants pour la vie aquatique. Inintéressants, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de chaos. La nature adore le chaos. Et quand vous avez un lit de rivière qui est complètement lisse, avec une granulométrie complètement homogène des cailloux, les cailloux font tous la même taille, grosso modo, ou du moins sont tous répartis de manière uniforme, il n'y a pas d'à côté des sables, d'à côté des galets plus gros, etc., ce qu'on appelle nous le trigranulométrique. Ben quand vous n'avez pas ça dans un fond de rivière, donc le fond de rivière n'est plus attractif, et donc vous avez moins d'insectes dans le fond de la rivière, enfin bref, c'est tout un cycle et tout un système qui est perturbé. Donc l'objectif du chantier, c'est aussi de venir travailler sur tout le fond de la rivière en venant installer des épis. On va prendre aussi, vous voyez, alors là, vous le verrez plus loin, mais le robinier faux acacia, il a quand même un énorme avantage, c'est que c'est un bois qui est imputrescible. Donc là, on a gardé quelques robiniers en place. On a demandé à l'entreprise de déforestation de les laisser, de les couper à un mètre du sol. Le terrassier va les récupérer avec leur système racinaire. Et on va les implanter dans la rivière pour faire des caches à poissons, pour faire un petit peu de chaos dans cette rivière qui en a besoin. Effet collatéral positif de ce seuil, de la suppression de ce seuil. Ce seuil, aujourd'hui, il est infranchissable par les poissons. Et notamment chez nous, la truite lacustre, vous avez peut-être déjà entendu parler de la fameuse truite lacustre du lac du Bourget, ben la truite lacustre remonte pour frayer et se reproduire. Sauf que, ben malheureusement, très très vite, elle bute sur des obstacles qui sont infranchissables. Et là, vous en avez un. Le fait de supprimer le seuil va aussi permettre de rendre franchissable le seuil. Voilà, un projet très intégré, comme vous le voyez, avec... pour mot d'ordre, et en fait, c'est, je conclurai là-dessus, le slogan, qui était le slogan déjà de la laisse, donc on va en reparler, mais qui est aussi celui-là, pour une rivière plus sûre et plus vivante.